Gloire à Dieu. Vous avez remarqué que la technique n'est pas aussi rapide que le Seigneur. Alors ce matin, on va écouter le conseil de Dieu. Ce sont des petites notes d'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur en utilisant bien évidemment la Bible et la parole de Dieu. Et avec une question qui était dans mon cœur, c'est est-on nous aussi, êtes-vous vous aussi assis à la table du roi? Alléluia. C'est vrai que on a déjà entendu moult et moult prédications sur Méphibosheth. Mais le Seigneur m'a mis à cœur ce partage pour des choses simples, des choses fondamentales que nous devons nous peut-être réapproprier. Méphibosheth. Alors j'ai regardé dans le calendrier que j'ai à la maison, et c'est pas dans le calendrier des prénoms que j'ai. C'est un drôle de prénom quand même, Méphibosheth. Je me demande où les parents ont trouvé un nom comme ça, mais on va voir qu'il y a une explication à cela. On va lire le deuxième livre de Samuel. Dans 2 Samuel, on va lire le chapitre 9. C'est un moment qui marque le début du règne de David. En quelque sorte, ça n'a pas de rapport avec les élections d'aujourd'hui. Mais c'est le début du règne de David et en quelque sorte, il inaugure son règne par un acte de grâce qui est vraiment hors du commun avec Méphibosheth. On va lire donc le chapitre 9, si vous avez vos Bibles. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ?» Saül, c'était le roi qui avait précédé David. Et Dieu avait destitué Saül pour oindre et reconnaître David comme roi. « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur dans la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, un peu plus loin, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use de la bonté de Dieu envers lui ?» Verset 4, et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, à Lodebar. » Cette province éloignée du lieu de règne de David. Et un peu plus loin, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils, tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Alléluia. Et il est précisé, Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Amen. Alors c'est vrai que comme je le disais juste avant, Méphibosheth, c'est pas un prénom qui court les rues. Moi j'ai jamais eu de copain qui s'appelait Méphibosheth. Je sais pas si vous en avez eu. Mais c'est vrai que c'est un nom qui est pas très courant. La vie de cet homme dont on va parler, elle est faite d'ombre et de lumière. Et quand je dis ça, en regardant la vie de Méphibosheth, je vois que cette ombre et cette lumière qui constituent la vie de Méphibosheth, c'est aussi ma vie qui est constituée de cette manière-là. Sa vie à Méphibosheth, ça a dû être une joie dans la famille de Jonathan, un espoir, puisqu'on l'a appelé Méphibosheth. Vous savez que les Juifs se plaisaient, aimaient à donner des noms avec une signification pour leurs enfants. Et les Juifs vraiment excellaient dans la contraction de certains mots pour donner des prénoms. Et Méphibosheth, en fait, textuellement, ça veut dire dissipant la honte. Dissipant la honte. Alors je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit peut-être que dans cette famille, il y avait quelque chose de, une vieille affaire à régler, quelque chose de caché, et qu'on chargeait Mephibosheth, qui dissipait la honte, de régler cette affaire, parce que souvent, quand il y a une affaire dans une famille, on ne veut pas la régler. Hein, on passe, comme on dit, le bébé à son descendant en espérant qu'il règle ses histoires. Et Mephibosheth, il a été appelé de cette manière-là, sans doute, pour intervenir dans ces histoires de famille. Mais enfin, ça, c'est une supposition de ma part. Mais en tout cas, son nom n'a pas été, malheureusement, une prophétie dans la vie. Parce que quand on regarde les circonstances de la vie de Mephibosheth, on s'aperçoit que ce sont des tristes circonstances. Il n'a pas dissipé sa honte. Rien dans sa vie, jusqu'à un certain moment, ne pouvait laisser supposer qu'il était là pour dissiper la honte. Et il y a plusieurs parallèles. Il y a plusieurs parallèles dans cela. Il y a des côtés négatifs et des côtés positifs, des parallèles que nous allons voir. Mais on va voir aussi que ce nom qui lui est donné, c'est un nom qui somme faux. J'ai pas, de nos jours, maintenant, quand il y a un enfant qui naît, on lui donne un nom qui sonne bien, qui est beau, qui est à la mode souvent. Et le problème, c'est que des fois, on donne le nom d'une star à une petite fille et puis elle va devenir une affreuse petite mégère. Voilà. Il y a des gens que j'ai connus qui s'appelaient aimables et franchement, ils n'étaient pas franchement aimables. Hein. Moi, on m'appelait Désiré, mais je n'étais pas franchement Désiré. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir un nom qui dit quelque chose, une vie qui ne dit rien. Et moi, je pense qu'il faut mieux avoir un nom qui ne dit pas grand-chose et une vie qui dit quelque chose. Alléluia. Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Un beau nom n'embellira jamais une pauvre vie, tandis qu'une belle vie donnera du caractère même à un pauvre nom. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous, on est sans doute un peu comme Mephibosheth, des parents ont mis des espoirs en nous. Et des espoirs qui, des fois, sont transformés en désespoir. Enfin, je parle pour ma vie. Il y a un moment. Mais c'est vrai aussi qu'après, on est marqué par les choses que l'on dit, que l'on dit de nous. Mais souvent, après, on dit, oh ben lui, c'est un chic type, c'est une chic fille, c'est un garçon bien, c'est un honnête homme, c'est etc. Mais souvent, je me pose la question entre les évaluations, les appréciations des uns et des autres, de la famille, des collègues, est-ce que ma conscience tenait le même langage ? Vous savez, je relisais, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé dessus sur la vie d'Auguste. C'est la période historique et culturelle. Auguste, il a fait des choses dans l'Empire romain importantes pour le peuple, etc. Mais il a fait des choses qui n'étaient quand même pas bien. Et quand il avait une belle apparence comme ça, une belle façade de vie. Mais quand il est mort, il a dit à ceux qui étaient autour de lui, si vous êtes content de ce que j'ai fait, applaudissez-moi. C'est déjà un petit peu présomptueux à mon sens, mais il a dit surtout est-ce assez bien joué la comédie de ma vie ? Voilà, ça montre l'apparence. On trompe les hommes par les apparences, mais on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu regarde au cœur. Ce qui compte, c'est de savoir comment Dieu nous voit. Hein ? Comment Dieu nous voit et comment Dieu nous appelle. Vous savez, il y a ce chant qui dit que Dieu ne regarde pas à qui j'étais, mais il regarde à qui je serai. Alléluia. Et ça, c'est une œuvre extraordinaire de la part de Dieu. Parce que la parole nous dit, et vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Tous sont péchés. Tous sont péchés. Tous, sans exception, sont privés de la gloire de Dieu. Le seul nom que Dieu nous donne avant qu'on vienne à lui, c'est le nom de transgresseur. C'est le nom de transgresseur. Et je dirais, malheureusement, ce mot-là, ce nom-là qui nous est attribué avant que nous venions à lui, c'est vraiment un nom d'origine d'appellation contrôlée, si j'ose dire. On est transgresseurs, on est tous pécheurs. Nous sommes des pécheurs, on a offensé, on a transgressé de multiples reprises la loi de Dieu avant de venir au Seigneur. Le péché, c'est ça, c'est une transgression, on ressemble à Méphibosheth avant que David ne vienne à lui. Et souvent, notre nom ne colle pas à la réalité de qui nous sommes. Par contre, ce nom de transgresseur, c'est quelque chose qui correspond toute la vie à notre vie de pécheur avant de venir à Dieu. Vous savez, le péché, c'est... Je rentendais ça l'autre jour sur un court extrait d'une intervention d'un pasteur américain qui disait « Est-ce que vous combattez votre péché ? Est-ce que vous haïssez votre péché ?» Et le pasteur ajoutait « Ce n'est pas le diable qui vous mène en enfer, c'est votre péché. » Alors, est-ce qu'on met tout en œuvre, toute notre force, toute notre détermination pour lutter contre notre péché ? Voilà, ça c'est une réflexion intéressante que le Seigneur nous fait partager ce matin. Alors les côtés négatifs, c'est dans la famille de Méphibosheth, c'est une famille déchue. Hein? C'est une famille déchue, parce qu'il ne faut pas oublier que Méphibosheth, c'était le petit-fils de Saül. Hein? Saül qui vraiment s'était fait l'ennemi de David, hein, puisqu'il voulait chasser David, il voulait récupérer le trône, il voulait tuer David. Il l'a poursuivi pendant des années, il a voulu le tuer à plusieurs reprises. Et ça veut dire que Méphibosheth, du coup, faisait partie du clan des ennemis de David. C'est bien clair. Hein. Il n'y avait pas de perspective autre, c'est-à-dire qu'il était dans le clan. Et vous savez, quand vous lisez la parole, que lorsqu'un roi est instauré, il n'avait de cesse de détruire ses ennemis. C'est la loi. Donc ça veut dire que pour Méphibosheth, il était quand même dans une position dangereuse pour sa vie, puisqu'il était d'une famille qui était l'ennemi de la famille du roi. Si je dis ça, c'est pour noter ce parallèle, c'est que notre vie, elle est pas meilleure, notre situation, elle n'est pas meilleure. Quand on parlait de transgression, par filiation, on fait partie de la famille qui est opposée à Dieu. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit « La chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. » Voilà, c'est-à-dire que notre naissance, c'est peut-être dur à accepter, c'est difficile à admettre, mais nous donne pas le droit, ne nous donne pas l'accès au royaume de Dieu. Simplement notre naissance. Quand on regarde cette époque-là, qu'on voit les Juifs, on s'aperçoit qu'eux, ils se disaient descendants d'Abraham, donc fiers de l'être, certains de leur salut, etc. Parce qu'ils descendaient d'Abraham, certes, ils descendaient d'Abraham, mais ils disaient, il n'y a pas de souci pour nous, on est les meilleurs, on est les descendants d'Abraham. On a comme une sorte d'héritage automatique. Mais Jean, dans le chapitre 8 de son épître, il dit à un moment que votre père, c'est pas Abraham, c'est le diable. C'est le diable. Parce que il n'avait pas des vies conformes à la volonté de Dieu. Et ils étaient pécheurs puisqu'ils n'étaient pas venus à Dieu avec leur pureté de cœur, avec leur sincérité de cœur, avec véritablement une repentance et une conversion telle que l'on connaît. Ils se croyaient simplement rachetés de Dieu parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Tout comme parfois... Dans des lieux, on se pense sauvé, racheté parce qu'on est d'une famille de chrétiens, parce qu'on pratique la religiosité, parce qu'on est enfant de pasteur, et on se dit on est sauvé. Non, c'est comme les juifs, on n'est pas sauvé. La famille de Dieu, c'est une famille dans laquelle on rentre après sa propre volonté, après sa propre décision. Après sa propre détermination à appartenir à Dieu. Vous savez, c'est un petit peu, et ce procédé-là, ce processus-là, il n'est pas simplement un jour je me lève, je dis tiens, je vais appartenir à Dieu. Il y a une démarche, et on se souvient comment Jésus a répondu à Nicodème lorsqu'il est venu le voir dans la nuit. Il a dit qu'il te faut naître de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est donc une obligation, mes frères et mes sœurs, de cette nouvelle naissance. Il y a une anecdote que je relisais il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez Hudson Taylor, qui est un pasteur anglais, fin 1800 et quelques, 1850, qui est parti en Chine, qui vraiment a fait une évangélisation extraordinaire en Chine. Et avant de partir en Chine, il avait été invité par un pasteur anglican quand il était encore en Angleterre. Et puis il a prêché sur la nouvelle naissance. Il a vraiment prêché sur la nouvelle naissance et sur ce passage de Nicodème. Et puis il a fini sa prédication, et le lendemain il est rentré chez lui, mais le lendemain il a eu la surprise de voir l'évêque de cette église anglicane venir frapper chez lui. Et ce pasteur anglican a laissé des traces et il a dit à Hudson Taylor, pendant 30 ans j'ai été un dignitaire de l'église et je me suis aperçu que je n'étais pas né de nouveau et donc que je n'étais pas sauvé. Il a eu cette révélation par le Saint-Esprit ce jour-là. Ce n'est pas la pratique scrupuleuse d'une religion qui nous fait être assurés de notre salut. C'est lorsqu'on a expérimenté cette nouvelle naissance. Si on n'expérimente pas cette nouvelle naissance, on ne peut pas se dire chrétien, enfant de Dieu et sauvé, et on appartient donc à la famille ennemie de Dieu. Une famille déchue, perclue des pieds. Alors le Seigneur m'a mis ce message à cœur, mais c'est drôle parce que depuis 5 mois, j'ai mal dans les tendinites et tout ça, je suis perclu des pieds. Donc j'ai peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Le troisième parallèle que je note sur Méphibosheth, c'est qu'il était perclu des pieds. Il était boiteux. C'est vrai que quand on lit la parole, on s'aperçoit que dans sa petite enfance, pendant un épisode de la guerre, il s'est cassé les deux jambes et c'est une conséquence de cette fracture-là. Et si on est sincère, on doit admettre aussi qu'en nous, il y a quelque chose de cassé. Hein? Quand on est tiraillé, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, il y a quelque chose de cassé en nous. Et quand on n'a pas cette volonté pleine et entière d'appartenir à Dieu, on est dans quelque chose entre une volonté honnête et une passivité malhonnête. Vous savez, Élie disait, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si c'est noté dans la parole, c'est bien pour nous enseigner, pour nous avertir et pour nous reprendre, mais aussi pour nous soutenir et nous guider là où il faut. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Ça veut dire que là, Élie, il traite les croyants de boiteux spirituels, mais il leur dit, si vous continuez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas du tout une condamnation que le Seigneur met sur notre vie. C'est un avertissement. Paul disait, et vous le savez aussi bien que moi, je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je ne fais pas le bien que je veux faire. Et Paul, j'allais dire Paul, c'est quand même quelqu'un, quoi. Hein? Alors, devant Dieu, devant notre conscience, souvent, eh bien on essaye quand même d'aller cas à cas comme ça. Vendredi, on a parlé de Marie qui a déposé du parfum sur la tête de Jésus ou sur les pieds de Jésus, et à un moment il est dit « elle a fait ce qu'elle a pu ». Alors ce « elle a fait ce qu'elle a pu », c'est pas comme des fois nous on dit « je passe un examen, j'ai rien étudié, mais j'ai fait ce que j'ai pu hein. ». Non, c'est pas ça. Elle a fait ce qu'elle a pu, c'est-à-dire avec ses forces, elle a fait ce qu'elle a pu. Et Dieu va lui donner les forces pour faire bien au-delà de cela. Alléluia. C'est cela, boiteux. Pour Mephibosheth, il est un prince fugitif. C'est le quatrième parallèle que je voulais faire. Il s'est enfui vraiment dans une contrée très lointaine. Mais vous savez, l'homme n'a pas été fait par Dieu pour être un fuyard, pour être un fugitif. Dans le jardin d'Éden, après le péché, Adam se cache. Il essaye de fuir loin de Dieu lorsqu'il entend la voix de Dieu. Mais Dieu n'avait pas fait l'homme pour être un fugitif. Hein? On est créé à l'image de Dieu pour être en communion avec lui, et pas en communion par intermittence, mais en communion permanente avec lui, hein? Alors il y a des choses dans notre vie qu'on peut stopper, qu'on peut dompter, et puis par exemple il y a des choses qui sont bien plus difficiles à dompter, hein? Jacques nous parle d'un petit membre qui est dans notre corps et qu'on a beaucoup de mal à dompter. Et ça, on devrait faire attention à ces choses-là, à sa langue, à ses paroles. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Parce que, mes frères, mes sœurs, il y a un jour, on paraîtra devant le Seigneur, devant Dieu, devant le tribunal de Christ. Et là, Moi, souvent, j'ai cette image, j'ai l'impression, Dieu, il va enclencher le répondeur. Voilà, et toutes nos paroles vont être là. Toutes les paroles un peu inutiles, oiseuses, etc., seront là. Dieu va tout repasser. Alors, quand je dis ça, souvent on me dit, mais oui, mais ça veut dire que Dieu nous espionne. Non, Dieu ne nous espionne pas, Dieu nous regarde. C'est différent. C'est différent. Regardez ce qui est écrit dans le psaume 50. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames les fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Je vais tout mettre sous tes yeux. Mes frères, mes sœurs, au moment du jugement, enfin du tribunal de Christ, Dieu va mettre sous tout, toute notre vie sous ses yeux. Alors je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que c'est comme ça parce que la parole nous le dit. Et si on a pu tout dompter les animaux de la terre, comme Dieu voulait, eh ben on n'a pas réussi encore vraiment, véritablement à dompter notre langue. Et dans Jean 3, il est dit que Dieu, Jésus dit, ils ne viennent pas à moi parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc ça veut dire que toutes ces choses-là nous empêchent de venir à Dieu. Et puis il y a aussi la peur. La peur, c'est parce que Mephibosheth a fui, c'est parce qu'il avait peur. Et moi, je sais que Dieu n'a pas fait l'homme pour la peur. On a été fait pour l'amour. On a été fait par l'amour et pour l'amour de Dieu. Et c'est vrai que quand on regarde la parole, on s'aperçoit que depuis que l'homme a transgressé la parole de Dieu, la loi de Dieu, il a vécu dans la peur. Et cette chose-là, qui est originelle, perdure. Et regardez autour de vous, les gens que vous pouvez côtoyer, ou même parfois nous-mêmes. C'est un monde, des fois, rempli de peur. Hein, on a peur de... Voilà, on a peur du gendarme, on a peur de l'obscurité, on a peur de la foudre, on a peur de son passé, on a peur pour son travail, on a peur pour son argent, on a peur pour sa santé, on a peur de la mort. Je rencontre des gens qui ont peur de la mort. Et Mephibosheth était dans cet état-là. Une chose négative encore, avec cette peur, c'est qu'il est parti à Lodebar. Lodebar qui était éloigné de Jérusalem. Mais Lodebar, ça veut dire en fait, en hébreu, ça veut dire une terre sans pain. Sans pain, ça montre, ça illustre une terre aride, une terre où rien ne pousse, où très peu de choses ne poussent. Et l'homme, il est pas fait pour vivre dans cette disette aussi bien physique que morale. Hein. Dieu nous a fait pour avoir la vie en abondance, il nous dit. On n'est pas sur une terre sans pain. Et souvent, quand on ne connaît pas le Seigneur, on se lance dans cette vie pour avoir de la satisfaction immédiate, pour avoir du plaisir immédiat, mais on est en fait dans une terre sans pain. Mais comme on le disait tout à l'heure, le Seigneur délivre. Alléluia. Alors tous ces côtés négatifs, on va les garder, parce que si le Seigneur nous en parle, c'est bien aussi pour que nous soyons enseignés. Et puis il y a des côtés positifs aussi dans la vie de Mephibosheth. Le premier côté positif, c'est que dans l'histoire de Mephibosheth, on voit que c'est David qui prend l'initiative. C'est pas Mephibosheth qui vient voir David, c'est David qui vient. Et vous savez, dans nos vies, c'est toujours, toujours, toujours Dieu qui prend l'initiative. C'est toujours Dieu qui est à l'origine de notre salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a donné son fils pour cela, il l'a payé pour cela, il nous prépare pour le recevoir. Là, dans ce passage, David pensait à Mephibosheth, alors que Mephibosheth ne pensait pas du tout à David. Et dans notre vie, c'est cela. Dieu pense à nous. Quand on lui appartient, ou quand on ne lui appartient pas encore. Dieu pense à nous. Dieu pense à nous. Vous savez, David, à un moment dans le psaume 69, il dit « Y a-t-il quelqu'un qui soit mon ennemi, etc. Vous avez mis mon nom dans les chansons des buveurs, etc. » Mais même que lorsqu'on est dans cette attitude-là, Dieu pense à nous. Amen. Dieu veut toujours avoir un accès à l'homme. Dieu veut toujours avoir cette âme devant les yeux, c'est ce cœur qui est devant ses yeux parce qu'il veut le sauver. Alléluia. Et moi, quand je regarde le sacrifice de Jésus, je me dis, ce Dieu, ce Fils de Dieu a quitté son ciel de gloire avec précipitation pour venir sur terre, pour devenir lui péché sur la croix. Il n'a pas été pécheur, mais il a porté les péchés. L'Éternel a mis sur lui les péchés de nous tous. Ce qui nous barrait, nous, notre accès à Dieu, Jésus a permis cet accès. Puisqu'il nul ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire que si nous, on ne pense pas à Dieu, qu'on rejette Dieu, Dieu pense toujours à nous. Et quand on vit après pour le Seigneur, même si parfois il y a des faiblesses, etc., Dieu pense toujours à nous. Vous savez, il y a ce sacrifice de Jésus, moi, c'est quelque chose qui est en permanence devant mes yeux, dans mon cœur. Il y a, pour illustrer ça, je repensais à... vous savez, en Amérique du Sud, il y a des rivières comme ça, il y a des fleuves, et dedans, il y a des piranhas. Et des fois, ceux qui conduisent les troupeaux doivent faire traverser ces fleuves. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très amical pour une bête, mais ce qui se passe, c'est que souvent, le berger, dans ce cas-là, il prend une bête qui est chétive, etc., une jeune bête, il la jette dans l'eau. Tous les piranhas viennent manger la bête. Ça dure très peu de temps, hein, 40, 50, 60 secondes. Mais pendant ce temps-là, tout le troupeau a le temps de passer. Et en fait, mes frères, mes sœurs, c'est ce qu'a fait Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Et quel est le résultat de la mort de Jésus sur la croix? C'est que nous avons la vie. Alléluia. Alléluia. Quand je lis dans les psaumes, des psaumes qui sont messianiques, qui préfigurent le sacrifice de Jésus, il dit, tous les flots de ta colère ont passé sur moi. Tout ce qu'il y avait de réprobation envers le péché dans le cœur de Dieu a été posé sur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment, a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est devenu péché. Il a pris notre place. Et c'est pour ça que une fois qu'on prend conscience de sacrifice, qu'on a cette repentance, cette conversion, qu'on vient à Jésus, eh bien là, on peut se réclamer du nom de Jésus. On peut avoir la certitude d'être accueilli par Dieu. Crois au Seigneur Jésus, crois et tu seras sauvé. Alléluia. Alors peut-être que quand on parle ainsi, on se dit, voilà, mais comment puis-je venir à un Dieu si puissant, si grand? Ou lorsqu'on est enfant de Dieu, on se dit, mais... Et Dieu voit toutes choses et il y a des choses misérables dans ma vie et comment Dieu va pouvoir m'accepter? Eh bien, il faut faire comme Mephibosheth. Au verset 8, on l'a lu, il est écrit, il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça qu'il faut se tenir devant Dieu. Un chien mort tel que moi. Vous savez, hein, quand Mephibosheth emploie ce mot-là, déjà du temps des Hébreux, des Israélites, le mot chien, c'était vraiment tout ce qui avait de plus impur, mauvais, qu'on ne regardait pas, on maltraitait, etc. Alors imaginez un chien mort. Voilà. La Bible n'a pas osé dire à ce moment-là un chien crevé, parce que la Bible est élégante, mais c'est tout à fait ça. Et Mephibosheth, il vient devant David comme cela. Comme nous venons devant Dieu lorsque nous voulons le pardon du Seigneur. Hein, le fils prodigue, vous le connaissez, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Notre péché, il monte jusqu'au ciel, mais nos péchés touchent Dieu, et pour le pardon, il a envoyé son fils. Et lorsque nous sommes à Dieu, lorsque nous avons ses pardons, c'est des choses que nous avons dans le secret de notre cœur, il suffit de se prosterner avec repentance, avec un cœur sincère, devant notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Vous savez, dans une autre parabole, on voit un publicain qui monte pour prier, et tellement il se sent indigne, il ne vient pas, il n'ose pas se manifester, être devant Dieu. Hein, il se frappe la poitrine et dit: Dieu, sois apaisé envers le pécheur que je suis. Et puis à côté de ça, vous avez un pharisien qui lui se vante, et il pense qu'il a un casier judiciaire spirituel vierge et que voilà, tout lui est dû. Eh bien, cet homme-là, il est peut-être rentré en s'estimant digne du salut, mais il est ressorti perdu, mes frères, mes sœurs. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce que le salut qui est proposé par l'Évangile, il ne s'arrête pas au salut. Il nous fait rentrer dans une abondance de vie et dans la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Christ. Ne crains pas, ne crains rien. Moi, je me suis aperçu qu'un des premiers résultats de ma conversion, c'était cette crainte. Je vous l'ai dit souvent, moi, quand je me suis converti, j'ai lu Lamentation de Jérémie 3, 57, du jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu m'as dit, ne crains rien. J'avais peur, hein, quand j'étais pas chrétien, j'avais peur. J'avais peur, j'avais peur de la vie, j'avais peur de la mort. C'est pas pour rien si ce que j'ai fait avant d'être à Dieu était là pour essayer de combler cette peur-là. Hein? Alors en apparence, oui, je faisais comme beaucoup. Hein? Je pensais être assuré, je roulais des mécaniques, j'étais fort, etc. Mais c'était une peur existentielle, viscérale de la vie, de la mort. Et à partir du moment où Dieu est rentré dans ma vie, plus aucune crainte. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Par contre, le Seigneur sait qu'il a besoin de venir nous soutenir dans des situations. Et c'est pour ça que ce « crains rien », on le retrouve 365 fois dans la Bible. Et même 366 fois. Parce que Dieu a prévu les années bissextiles. Mais s'il nous rappelle tous les jours « ne crains pas », c'est parce qu'il sait que nous pouvons être fragiles. Mais on sait aussi que lorsqu'il nous dit ça, il est là près de nous pour nous tenir la mort. Et on sait que cette vie ou cette mort, eh bien, mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans la victoire du Seigneur à la croix. Alléluia. Christ est ma vie. Alléluia. Et puis, le Seigneur nous restaure. Il nous enlève toute crainte et il nous restaure. C'est-à-dire que comme David envers Mephibosheth, il nous redonne toutes les richesses, toutes les possessions. Quand Christ réintègre un homme dans le plan de son salut, ça veut dire qu'il nous donne la possibilité de dominer sur notre péché. Alléluia. Et la parole nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui vient de Dieu. On ne peut pas dire que la tentation vienne de Dieu. La tentation, elle est par le diable, par le monde, par notre vieille nature, et elle n'est pas de Dieu. Par contre, lorsqu'elle intervient, Dieu nous donne toujours la solution pour la dominer et pour en sortir. Ça veut dire que la vie terrestre, là, elle a beau vouloir nous saisir, nous égorger, rugir, etc. Dieu est là. Et on l'a dit tout à l'heure, je sais, Dieu est là. Dieu est là. Et quand on est enfant de Dieu, mes frères, mes sœurs, on n'est pas une girouette. On n'est pas une girouette. Souvent, je me faisais la comparaison ou l'image d'un chrétien comme d'une boussole. Vous savez, la boussole, ça monte toujours le nord. Eh bien, nous, comme nous sommes chrétiens, nous avons toujours les yeux fixés sur Jésus, sur Dieu. Mais comme la boussole, vous avez remarqué, des fois la boussole, quand vous la bougez, il y a des petites oscillations comme ça, pop, pop, et puis après ça revient sur le nord. Ben, notre vie chrétienne, elle est un petit peu aussi comme ça. On devrait être toujours sur Jésus, mais de temps en temps, pop, 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 il y a des petites oscillations. Et ces choses-là, il faut en avoir conscience, mes frères, mes sœurs, et il faut les déposer au trône de la grâce. Alléluia. Quand Jésus est dans un cœur, la direction qui prédomine, c'est Jésus. Point. Et alors après, la bonne nouvelle, c'est que après la restauration de notre âme, de notre corps, de notre vie, après la restauration, il y a le restaurant. C'est pas une parole très biblique, mais c'est vrai que c'est fini, l'eau de barre, la terre sans pain, etc. C'est fini, la disette, elle est finie. On rentre comme va rentrer quelqu'un ce soir au palais de l'Élysée, ou comme récemment la première ministre à Buckingham Palace. Après la restauration, nous sommes restaurés. Et nous allons au restaurant, gloire à Dieu. Et on est en plein dans le psaume 23. Tu dresses devant moi une table face à mes ennemis, face à mes adversaires. Alléluia. Quand on combat, qu'on a des ennemis, c'est pas le moment de se mettre à table. Hein. Il faut mieux se préparer à combattre. Sauf qu'on sait que quand on appartient à Dieu, on peut rester au restaurant. Parce que Dieu dresse une table entre moi et mes ennemis. Alléluia. Moi, j'ai toujours cette anecdote de cette petite fille qui racontait quand elle était punie par ses parents, qui étaient chrétiens. Pour la punir, ils l'ont mis à part de la table familiale, sur une petite table basse où elle mangeait. Et puis, ils ont servi le repas et ils ont entendu leur petite fille rendre grâce en disant « Seigneur, tu dresses devant moi une table entre moi et mes adversaires. » Ils lui ont dit de revenir à table. Alléluia. Alors, ça veut dire que si on a un mois, 5 ans, 20 ans de conversion, est-ce qu'on peut penser qu'on est repu ? Non. Non. Le Seigneur nous apporte toutes choses nouvelles. Et il nous remplit, il nous comble. Mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de la nourriture spirituelle. Alléluia. Mais il faut les bonnes choses. Dans la maison de mon Père, il y a des biens en abondance. Et ici, je meurs de faim, dit le fils prodigue. Ça veut dire aussi que des fois, on peut être dans la maison du Seigneur où on peut vouloir marcher avec Dieu et néanmoins avoir le sentiment de mourir de faim. Je lisais le témoignage d'un missionnaire là, en Afrique qui parlait de ses enfants, vous savez, qui meurent de faim. Et en ce moment, il y a des drames, hein, des millions d'enfants qui sont destinés, de par la guerre, de par les états politiques, à la famine. Et ces enfants, souvent, ils sont maigres, mais ils ont le ventre qui est ballonné. Et ce missionnaire disait, c'est parce qu'ils reçoivent une nourriture misérable et qui n'est pas adaptée à eux. Et ils sont squelettiques, faméliques, mais ils ont le ventre gros. Et des fois, un chrétien peut être comme ça. Un chrétien, il peut avoir le ventre gros, se penser nourri par le Seigneur, mais ce n'est pas la bonne nourriture. Et son âme est famélique, mes frères, mes sœurs. Dans la maison de mon père, il y a des biens en abondance. Donc, on ne peut pas être à l'image de ces enfants-là. Alors, la révélation par l'esprit, la repentance, la conversion, c'est les choses que l'on vit quand on devient enfant de Dieu. Et jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Il y a une image qui dit, on ne peut pas manger à deux râteliers. Voilà, ou on est de Dieu, ou on est contre Dieu. Et on veut être comme un fils de roi. Alléluia. Ne crains pas, et on accueille à la table du roi. Vous savez, dans ce siècle-là, où je lisais par exemple que Google allait intervenir maintenant, non seulement dans notre vie, vous savez, quand vous rentrez dans Internet, Google sait tout de vous, hein. Quel parfum vous préférez, est-ce que vous mangez plutôt de la baguette ou du pain, etc. Et tout ce que vous pouvez faire, vous êtes répertorié. Mais maintenant, ça va aller bien plus loin que ça. Et on est vraiment dans ce cercle de virtualité terrible. Et on ne peut pas lutter. Et ça, c'est les temps de la fin. C'est quelque chose qui est là. Mais notre vie, moi, ça ne m'embête pas qu'elle n'appartienne pas au monde, puisque ma vie appartient à Jésus. Alléluia. Un jour, c'est vrai, où je travaillais, moi, le patron m'avait dit mais je m'en fous si je t'appelle pas par ton prénom. Tout ce que je te demande, c'est que tu travailles et que tu sois rentable. Pour moi, t'es un numéro. T'es 1-54-06-78-646-128. Voilà, c'est mon numéro de sécu. Hein, c'est pas mon numéro de carte bleue. Et voilà, il m'avait dit t'es ça. Et c'est vrai qu'on dit souvent je ne suis pas un numéro. Mais c'est vrai. J'avais eu senti cette impression-là, mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu est si bon que même si on a un numéro, il nous donne quelque chose d'immense. Il ne nous donne pas des petites choses. Alors, ça veut dire que dans notre cœur, sa place, elle doit être immense et elle doit prendre toute la place. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Alors, la décision, elle est là. Si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus veulent accepter cette proposition de Dieu? Et est-ce que ceux qui sont convertis sont vraiment dans ce chemin que Dieu nous parle ce matin, que Dieu nous enseigne ce matin? Et il me reprend moi autant que vous autres. Est-ce que dans ce cas-là, on veut marcher selon ses voies? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut être à la table du roi? Et la réponse, elle doit être simple et claire. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça ne peut pas être peut-être, mes frères, mes sœurs. Ça, c'est une histoire que j'ai lue aussi récemment En Angleterre, pareil, j'étais sur l'Angleterre, il y avait un mariage et tout était prêt, c'était un truc fastueux, il y avait des centaines d'invités, il y avait des. Enfin, je ne sais pas comment se passent ces grands mariages-là, nous on était une vingtaine à notre mariage, donc c'était plutôt intime. Là, il y avait des invités, des calèches, des grands tas de machins. Et puis, au moment où le prêtre dit au monsieur, est-ce que vous voulez prendre pour époux madame, le monsieur dit, yes, I will. In English, in the text. Et après, il demande à la dame, est-ce que vous voulez prendre monsieur pour époux? Et la dame ne répond rien. Mais elle ne répond rien, elle reste mutique. Alors au bout d'un moment, tout s'arrête. Et le mariage a été annulé. Tout le monde est reparti chez soi, on a fermé le restaurant, etc. Mais ça a fait un tel point que les journalistes du coin sont venus interroger la femme le lendemain matin pour lui dire « Mais alors, vous n'avez pas dit oui, pour quelle raison et tout ça ?» Et la femme a répondu « Ouais, mais vous savez, j'ai pas dit oui, mais j'ai pas dit non. » Mes frères, mes sœurs, c'est exactement la même situation que là. Ce qui est contre Dieu n'est pas avec Dieu, ce qui est avec Dieu est contre Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors moi, ça, quand j'entends des anecdotes comme ça du monde, ça me parle. Ça me parle parce que si le Seigneur me fait lire ces choses-là, c'est qu'il me parle à moi. En me disant, mon enfant, te contente pas de ce que tu as, n'aie pas des écailles d'illusion devant les yeux. Si quelque chose est à dire sur ta vie, c'est moi qui l'a dit. Vous savez, dans la parole, il est dit que nos lèvres ne parlent jamais de manière flatteuse de nous-mêmes, mais que ce soit les lèvres d'un autre qui nous donne bonne réputation. Et là, c'est pareil, c'est le Seigneur qui nous guide, qui nous évalue, qui nous conseille. Mais mes frères, mes sœurs, il nous appartient, avec le Seigneur, d'avoir une bonne note. Gloire à Dieu. Alors, c'est-à-dire, Seigneur, c'est pas que je t'ai pas dit oui, mais je t'ai pas dit non, 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 Seigneur, c'est oui, c'est maintenant, plein et entier, un oui ferme, définitif, entier, avec toute une vie consacrée à Dieu. Alléluia. Alors, on va courber nos fronts, on va prier quelques instants.